Vous êtes au milieu du pont Mill. On va traverser de l'autre côté. Attention à la circulation automobile. Vous devrez aussi traverser une piste cyclable. Regardez bien des deux côtés et soyez prudents lors de vos déplacements. Comme on peut le constater, la construction du canal de la Chine a joué un rôle fondamental dans le développement du secteur et de l'histoire de Montréal. On comprend que la voie navigable joue plusieurs rôles, celui de lien maritime entre le port et le lac Saint-Louis, de corridor industriel et d'axe de développement urbain. La rue Mill est une des rues qui longe le canal de la Chine. C'est une artère dont la vocation industrielle est très ancienne. C'est aussi le premier secteur où on a utilisé le potentiel d'énergie hydraulique du canal. L'implantation des usines sur les berges attire de la main-d'œuvre. En 1956, plus de 500 personnes travaillent dans des usines qui longent la rue. On y retrouve plusieurs types d'industries. Clouterie, construction mécanique, élévateur à grains, bassin de réparation de navires, fabrique d'huile de lin, de peinture, scierie et minoterie. D'ailleurs, le nom de la rue Mill fait référence au moulin de transformation du blé. Sur cette unique artère se trouve une douzaine d'industries lourdes, dont une partie importante se consacre au travail du métal. Vous êtes maintenant dans l'axe de la rue Mill. Continuez à marcher sur cette rue vers l'ouest. Remontons un peu dans le temps. Parmi les industries les plus notoires du secteur, on retrouve la meunerie City Flour Mill, fondée en 1848. Elle va demeurer en opération jusqu'au 20e siècle. Elle sera éventuellement rachetée par l'Empire Ogilvy, dont on va parler un peu plus tard. En 1889, c'est au tour de la compagnie W.P. Bartley de s'installer entre les 17 et 29 rue Mill, avec son atelier d'usinage, sa forge, sa fonderie et sa fabrique de bouilloire. Du même propriétaire, on retrouve aussi la St. Lawrence Engine Works, une fabrique de bateaux et de moteurs à vapeur. On trouve aussi la cale sèche des frères Tate, l'élévateur à vapeur et le moulin à maïs des importateurs Frottingham et Workman, les fabriques métallurgiques Pillow, Hersey, les portes et châssis Austell, la raffinerie de sucre Redpath et la minoterie Ogilvy, aujourd'hui connue sous le nom de ADM, pour en nommer que quelques-unes. Malgré leur grand nombre, peu d'usines sont opérationnelles aujourd'hui. La minoterie ADM est une des rares exceptions. Marchez lentement et prenez le temps d'observer les lieux d'architecture industrielle qui marquent le paysage du secteur. Vous allez voir des usines qui bordent la rue, leurs silos et quelques bâtiments dont certains sont laissés pratiquement à l'abandon. Vous allez aussi constater quelques signes d'un déclin de l'activité industrielle dans le secteur, comme en témoignent quelques terrains vagues que vous verrez de part et d'autre de la rue. Un peu plus loin devant vous, à votre gauche, remarquez le long convoyeur à grains construit en élévation qui suit le tracé de la rue. Observez également la grande arche qui surplombe la rue Mill juste devant vous. Revenons sur le passé des industries de la rue Mill. Implantée à la fin du 18e siècle, la minoterie Five Roses a contribué à faire du canal l'un des plus importants pôles hydrauliques et manufacturiers au pays. À la même époque, on retrouve aussi l'aciérie de William Aitken, la manufacture de coton de Louis-Joseph Forget et la fabrique de sucre raffiné Redpath. L'histoire de la minoterie Five Roses commence avec l'arrivée de la famille Ogilvy, originaire d'Écosse. S'intéressant à la meunerie, la famille Ogilvy fonde leur première minoterie en 1801 dans la région de Québec. Quelques années plus tard, voyant les rives du canal de la Chine comme un endroit stratégique pour la réception du blé en provenance de l'Ontario et pour l'expédition des produits transformés, Archibald Ogilvy et son beau-frère William Watson érigent un premier moulin à farine à l'ouest de Montréal, une dizaine d'années plus tard. Bien sûr, la présence du canal de la Chine, permettant l'exploitation de l'énergie hydraulique, est un facteur important de l'installation de l'industrie sur ses berges. Avec l'agrandissement du canal, l'entreprise familiale prend rapidement de l'expansion. Au 19e siècle, la famille Ogilvy a le monopole de l'entreposage et du transport du blé de l'Ouest vers les Grands Lacs. Five Roses est alors considérée comme la plus importante minoterie de l'Empire britannique. À la fin du 19e siècle, William Watson Ogilvy est le plus important meunier indépendant au monde. Continuez tout droit sur la rue Mill. En 1886, les Ogilvy achètent la Royal Mill, qui se trouve près du déversoir numéro 2, qu'on s'apprête à visiter. En 1891, ils acquièrent la City Flour Mills, qui se trouve un peu plus à l'est. La famille Ogilvy cède le contrôle de l'industrie en 1900. Elle est incorporée 2 ans plus tard sous le nom de Ogilvy Flour Mill Company. En 1968, la compagnie est vendue à Labatt Brass Can. Cette dernière la cède en 1992 à un grand nom américain du domaine agroalimentaire, Archer's Daniels Midland, d'où l'acronyme ADM, qui existe encore aujourd'hui. Finalement, en 2006, la marque Five Roses est vendue à Robin Hood, nouvellement acquise par Smucker's, une compagnie américaine qu'on connaît notamment pour ses confitures. Aujourd'hui, l'industrie est reconnue comme l'une des 120 ressources culturelles du lieu historique national du canal de la Chine. En plus d'impressionner par son envergure, la minoterie Ogilvy rappelle l'importance du port de Montréal à l'aube du 20e siècle pour le transport des céréales. Elle témoigne aussi du rôle capital du canal de la Chine dans l'essor du transport maritime au 19e et 20e siècle, l'importance de l'énergie hydraulique dans le développement industriel de Montréal. Arrêtez-vous quelques instants lorsque vous serez devant l'imposant silo qui s'élève devant vous. On connaît aussi la minoterie Ogilvy pour son immense enseigne de néon rouge, Farine Five Roses, visible au-dessus de l'édifice principal depuis 1948. Portez votre regard à gauche et regardez tout en haut pour la voir. Avec ses grandes lettres lumineuses d'une quinzaine de mètres de haut, supportées par un gigantesque échafaud, c'est un des plus importants repères urbains de Montréal. C'est aussi une des dernières enseignes du genre toujours visible. Vous voici maintenant devant le silo. Arrêtez-vous pour un moment. Dans les années 2000, des défenseurs du patrimoine montréalais et des citoyens ont engagé une lutte pour éviter que l'enseigne soit retirée. En juillet 2006, on l'a éteinte temporairement suite à la vente par ADM de la marque Five Roses à Smucker's. Ce geste a créé une onde de choc chez les défenseurs du patrimoine, si bien qu'on va la rallumer un mois plus tard sous les pressions populaires. Son importance dans le paysage urbain est telle que selon un sondage mené par The Gazette, en 2000, les Montréalais la considèrent comme le troisième repère urbain le plus important de la ville, juste après la tour du Stade olympique et le phare rotatif de la place Ville-Marie. Avant de passer sous la Grande Arche, remarquez la porte d'entrée de l'usine qui se trouve à quelques mètres. Juste au-dessus de la porte, on peut voir l'inscription qui indique Ogilvy. Inchangée malgré les rotations de propriétaires, elle témoigne de l'importance de la famille fondatrice à l'origine de son existence.